Mes frères bien-aimés, quand nous avons devant nous une parole de notre Seigneur, notre première tendance est toujours de la recevoir au pied de la lettre. Eh bien, que cela soit dit dès le début de cette homélie, suivre cette méthode, c'est très souvent se mettre le doigt dans l'œil et tomber à côté de ce que Jésus attend de nous. En fait, pour bien comprendre une parole de notre Seigneur, il faut toujours la remettre en perspective avec tout l'Évangile, c'est-à-dire avec toute la vie et tous les propos de Jésus. Prenons un exemple tout simple. Dans l'Évangile du jour, notre Maître nous demande clairement « À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. » Pourtant, lors de sa passion, lorsqu'il a été frappé par l'un des gardes du grand prêtre, est-ce que Jésus a tendu l'autre joue? Non. Il n'a même pas gardé le silence et a répondu à cet insolent « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Par là, nous comprenons que Jésus, dans l'Évangile du jour, ne nous demande absolument pas d'être des victimes, de nous laisser faire, de ne jamais nous défendre. Mais ce qu'il nous demande par cette image de la gifle reçue et non retournée, c'est de sortir du cercle de la violence. Quand on vous attaque physiquement, quand on vous injurie verbalement, nous dit-il, défendez-vous, mais n'utilisez pas les mêmes moyens que votre adversaire. Ne faites pas ce que vous fustigez dans son comportement, à savoir la brutalité. Ne vous abaissez pas à sa bassesse. L'empereur romain Marc Aurèle exprimera la même idée avec cette formule bien frappée. La meilleure façon de se venger de son adversaire, c'est de ne pas lui ressembler. Voyez, mes frères, comme les choses apparaissent sous un nouveau jour quand nous abordons le discours de notre maître avec un regard global. Mais au-delà de la violence, ce à quoi le Fils de Dieu nous exhorte ce matin, c'est à ne pas rester sur le plan de la justice dans notre vie. Œil pour œil, dent pour dent, c'est bien connu. Eh bien, Jésus nous dit non. Allez plus loin que cette éthique qui ne vole vraiment pas haut. Quittez la mesure de la justice et entrez dans la gratuité de l'amour. Car si vous vous cantonnez à la justice, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, si vous prêtez à ceux qui vous rendent, vous agissez alors tout comme les pécheurs, et à la fin des temps, lors du jugement final, c'est comme des pécheurs que vous serez traités. Ah, mes enfants, si vous voulez entrer dans le palais éternel de mon Père, il n'y a pas 36 solutions. Vous devez devenir ses fils. Que voulez-vous? Dans un palais, seuls les princes ont droit de cité. Les sujets et les étrangers, eux, sont boutés dehors. Devenez donc des fils de mon Père, en calquant votre agir sur le sien, qui est bienveillant envers les bons et les méchants. Je vous en supplie, arrêtez vos calculs humains et entrez dans la générosité divine. Je vous le dis pour votre bien, mais aussi pour mon bonheur, parce que je n'ai pas envie de vous voir loin de moi durant toute l'éternité. Une autre demande que nous avons parfois du mal à saisir est celle-ci. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Rappelons qu'à l'époque du Christ, enlever son manteau et sa tunique revenait à être nu. Mais là encore, pour interpréter avec à propos cette maxime, ne tombons pas dans une vision littérale et par voie de conséquence simpliste et niaise, laquelle consisterait à dire « Le Seigneur me demande de tout donner » dès qu'on me demande quelque chose. Un ami me demande 1 euro, je dois lui verser tout le contenu de mon compte en banque. Mes frères, par pitié, ne soyons pas imbéciles. Si notre Père nous a donné un cœur pour aimer, il nous a aussi donné une intelligence pour réfléchir. Suivons donc notre cœur et notre intelligence. Car si l'un des deux fait défaut, nous tombons inévitablement dans une caricature de la sainteté. Pour en revenir à l'histoire du manteau et de la tunique, rappelons-nous simplement que saint François d'Assise, qui a pourtant été le saint le plus pauvre de toute l'histoire de l'Église, même lui a gardé une bure sur lui et ne s'est pas promené nu dans les environs d'Assise. En fait, ce à quoi notre maître nous intime, c'est à dépasser dans l'ordre de la charité ce qui est attendu. Un ami nous appelle le samedi après-midi et nous demande de lui prêter un DVD pour la soirée, eh bien, non seulement nous le lui prêtons de bon cœur, mais nous prenons tout de suite notre voiture pour le lui apporter. même si cela nous oblige de mettre en attente le plat que nous préparions pour le soir. Voyez, aller toujours au-delà de ce qui est souhaité, et pour cela, prendre parfois sur notre nécessaire. Tout en vous disant cela, chers frères et sœurs, j'ai bien conscience que l'interprétation que je vous propose connaît une exception. En effet, il peut arriver que nous soyons amenés à mettre cette demande du Christ en pratique au pied de la lettre. Pour affirmer cela, là encore, je me réfère à la vie de notre Seigneur. Vous vous souvenez sûrement ce qu'il s'est passé juste après sa crucifixion. En attendant qu'il meure, les soldats se sont partagés son manteau et puis ils ont tiré au sort sa tunique. Pour le coup, le Christ a donc parfaitement incarné sa demande. Et il n'est pas impensable que nous aussi, de par les événements qui dessinent la trame de notre existence, nous soyons appelés à vivre pleinement cette maxime évangélique. Dans ce cas, nous ne saurons répondre oui que si nous nous serons préparés avant par ce débordement de la charité dont nous venons de parler. Mais notons tout de même qu'il s'agit là d'un appel particulier et non universel, et d'un appel qui se réalise de manière involontaire, de manière non recherchée. Dans la vie de saint François d'Assise, nous retrouvons d'ailleurs un épisode similaire, lorsque son père lui demande de lui rendre tout ce qui lui appartient. Saint François dépose alors son manteau et sa tunique, se retrouve nu devant les notables de la ville, et c'est alors que l'évêque de l'époque pose un geste sublime, il l'entoure de ses bras et de sa cape, signe que l'Église le protège. Allez mes frères, durant cette semaine, chaque jour, cassons les mécanismes de la violence et de la justice qui gangrènent nos vies. Votre mari ou votre femme vous fait une réflexion désobligeante, ne répondez pas sur le même ton et dites-lui simplement « Mon chéri, en m'épousant, tu ne t'attendais tout de même pas à épouser un ange, non ? Alors pourquoi tu t'énerves à chaque fois que tu trouves en moi ce qui était attendu, l'imperfection ?» Et quand votre enfant, le soir, vous demande une nouvelle fois votre voiture pour partir le lendemain, que vous hésitez parce qu'il l'a déjà rayé plusieurs fois, accordez-lui cette faveur sans broncher. Et le matin, levez-vous avant lui. Préparez-lui le petit déjeuner et 5 minutes avant qu'il parte, sortez de votre maison dans le froid glacial d'un matin d'hiver bourguignon et faites chauffer la voiture pour que le pare-brise soit dégagé et qu'il n'ait pas froid. Ah, mes frères, que le monde serait plus léger, plus aérien, si nous nous comportions toujours de la sorte. Certes, cela nous demande des efforts sur le moment, mais ensuite, toute notre journée est illuminée par cet acte de charité. Oui, il y a alors un sentiment de fierté et de plénitude qui nous donne de l'élan, et un sentiment d'étonnement et de gratitude qui porte la personne aidée. Amen.